le journal de la rédaction par Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Comment gérer ce nouvel excès de violence dont Paris a fait les frais samedi après la déferlante de casseurs en noir et jaune sur les Champs-Élysées? L'exécutif est pressé d'agir de toutes parts. Il y a urgence au niveau sécuritaire. Pas question de voir de telles scènes se reproduire. Et au niveau politique, attention à ne pas donner l'impression d'un retour en arrière qui effacerait les bénéfices du grand débat. Bruno Retailleau, vous l'entendrez, ne veut plus rien laisser passer. Il est sénateur des Républicains.
Et puis nous évoquerons également dans ce journal le débat qui se tiendra ce soir sur France Culture en direct depuis l'Élysée entre une soixantaine d'intellectuels et le président de la République. Ce sera à 18h15.
Nous entendrons sur ce débat l'avis de Dominique Volton, sociologue spécialiste de la communication. À l'étranger, le début d'un voyage important de Jair Bolsonaro aux États-Unis. Le président brésilien veut renforcer ses liens avec Donald Trump et évoquer la situation au Venezuela. Et puis en Algérie, l'impatience du peuple face au silence de ses dirigeants après 4 manifestations massives contre le régime en place et l'annonce d'un report des élections, toujours aucun signe d'apaisement en provenance du palais d'Almouradia.
Et puis justement, dans la question du jour, Benoît, on se demandera si on se dirige vers une Algérie post-Bouteflika.
A tout à l'heure. La date du rendez-vous est longtemps restée mystérieuse, mais c'est bien ce matin au Vatican que le numéro 1 de l'Église française doit rencontrer le pape et il va lui remettre sa démission. Le cardinal Philippe Barbarin a été condamné il y a un peu moins de 2 semaines à 6 mois de prison avec sursis pour avoir couvert les agissements du prêtre Bernard Prenat, lui-même poursuivi pour pédophilie. La rencontre de ce matin est donc très importante. À Rome, Mathilde Imberti.
Le diocèse de Lyon a fini par confirmer la date qui fuitait dans les médias. C'est donc bien ce matin, à 10h, que le pape reçoit en audience privée le cardinal Barbarin. Loin des regards des journalistes, qui n'auront pas de point presse à l'issue de cette rencontre au Vatican. Aucune limite de temps n'est fixée pour ce type d'audience. L'archevêque de Lyon va remettre sa démission, mais aussi faire part au pape de ce qu'il a vécu, explique son bras droit, Mgr Gobillard, qui ajoute que le cardinal Barbarin avait choisi de quitter ses fonctions avant même de connaître le jugement de première instance, à savoir 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé à la justice le père Prenat, auteur d'agressions sexuelles sur plusieurs jeunes scouts. Comme il a été fait appel de cette décision, le pape François pourrait très bien refuser la démission en attendant le résultat judiciaire. S'il l'accepte, en revanche, s'ouvrira la phase de recherche d'un successeur. Dans tous les cas, le pape François semble vouloir s'accorder un temps de réflexion. Il ne rendra pas sa décision aujourd'hui, assure le diocèse de Lyon. Elle sera communiquée plus tard par téléphone directement au cardinal Barbarin.
Et dans cette affaire, on a appris hier que le parquet de Lyon a fait lui aussi appel de la condamnation de Philippe Barbarin, ce qui permettra la tenue d'un nouveau procès. À Lyon, justement, les fidèles catholiques du diocèse sont visiblement nombreux à continuer à soutenir le cardinal Philippe Barbarin. Blaise Fayolle s'est rendu hier, dimanche, devant la chapelle de l'Hôtel Dieu, en plein centre-ville.
Injuste, c'est un mot qui revient devant la chapelle de l'Hôtel Dieu, en plein cœur de Lyon. Injuste le traitement réservé au cardinal Philippe Barbarin, c'est le sentiment de Guillemette, paroissienne.
Il est condamné pour un fait qu'il n'a pas commis, pour des faits qui sont prescrits, et d'autre part, il a payé pour tous les dysfonctionnements qu'il y a à l'heure actuelle dans l'Église, où ça éclate au grand jour.
Les soutiens de l'archevêque regrettent sa décision de présenter sa démission au pape. Grégoire salue quand même le courage du cardinal.
Je pense qu'il a eu beaucoup de courage et c'est très difficile en effet de savoir trouver sa part de responsabilité. Il a pris une décision difficile pour l'église de Lyon. Moi en tant que chrétien je ne suis pas super heureux parce que ça déstabilise un peu tout le monde. D'une certaine façon ça permet de montrer que l'église est consciente de son lien avec la société civile.
Ce serait une très mauvaise nouvelle pour le diocèse que le pape accepte la démission, indique Marie-Odile, une autre paroissienne. Même si elle reconnaît qu'une pause pourrait être bénéfique pour l'archevêque.
Je pense qu'il a tellement souffert de ce lynchage médiatique que je pense qu'il aurait besoin de se reposer. Ça a été, je pense, pour lui un chemin de croix et on prie beaucoup pour lui. Mais s'il reste, on sera très heureux, bien sûr.
Reportage et propos recueillis à Lyon pour France Culture par Blaise Fayolle. À Lyon, toujours, une jeune de 17 ans a été mise en examen hier pour violences aggravées avec arme blanche et en raison de l'orientation sexuelle des victimes. En compagnie d'autres jeunes filles, elle a participé à l'agression d'une gendarme et de sa compagne vendredi dans le quartier de la Part-Dieu. Agression homophobe qui suscite de nombreuses réactions d'indignation depuis ce week-end.
Et puis venons-en, Benoît, au sujet politique brûlant de ce début de semaine. Comment gérer politiquement le retour de la violence qui a marqué le week-end à Paris en marge de la 18e manifestation hebdomadaire des Gilets jaunes.
Le saccage de l'avenue des Champs-Élysées à Paris a marqué les esprits et de l'aveu même du président de la République. Rentré précipitamment samedi soir de son séjour au ski, le gouvernement n'a pas été à la hauteur. On n'y est pas, a-t-il déclaré. Au-delà de la réponse sécuritaire qui devra être donnée, on attend de nouvelles mesures annoncées comme fortes dans la journée. La situation impose aussi une reprise en main politique. Écoutez Bruno Retailleau, il est le patron des sénateurs Les Républicains au Sénat.
Parce qu'ils doivent rendre compte, je crois que le sentiment le plus partagé en France est l'écœurement. Les Français sont totalement scandalisés. Le gouvernement ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas. Ça fait le 18e acte, ça fait 10-8 semaines que cette chienlit dure. On a eu en plus au mois de décembre, souvenez-vous, le 1er, le 8 décembre, des opérations un peu similaires de Black Blocs et des meutiers. Et on savait depuis la semaine dernière, qu'il faut souligner, c'est que le renseignement territorial avait fait son travail. Et dès la semaine dernière, nous savions que samedi serait sans doute une rencontre dangereuse, en tout cas beaucoup plus dangereuse que les actes précédents. Et pour autant, on a assisté à nouveau en spectateur à des scènes de pillage, des Champs-Élysées saccagées, des commerces bien sûr pillés, des voitures de policiers, de gendarmes qui ont été attaqués, et une femme et une fillette qui l'ont échappé belle. Ça ne peut plus continuer.
Alors en fin de matinée, Édouard Philippe, accompagné de Christophe Castaner, Laurent Nunez et Nicole Belloubet, se rendra à l'Élysée pour faire des propositions à Emmanuel Macron sur l'évolution de la doctrine d'emploi des forces de l'ordre face aux casseurs. De son côté, Bruno Le Maire recevra les associations de commerçants, d'hôteliers ainsi que le secteur des assurances à Bercy. Ce sera dans l'après-midi. Après ces rendez-vous qui marqueront la journée politique, Emmanuel Macron sera confronté ce soir en direct sur France Culture à une soixantaine d'intellectuels de tous horizons, de toutes disciplines. Un exercice inédit organisé par l'Élysée, exercice qui ne manquera pas de soulever de nombreuses idées mais qui interpelle dans sa forme plutôt risquée pour le chef de l'État. C'est du moins ce que pense le sociologue et spécialiste de la communication Dominique Volton.
C'est un pari parce qu'on va mettre en rapport trois logiques qui sont très différentes, la logique de la connaissance, la logique politique et la logique de la communication des médias. Le monde de la connaissance produit et essaie de diffuser des connaissances. Le monde des journalistes est là pour essayer d'expliquer, poser des questions, poser des critiques. Et le monde de la politique est dans un deuxième temps pour essayer de voir ce que lui peut en tirer. Là, on va faire un raccourci de tout ça. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Peut-être que ça peut échouer. C'est inattendu, c'est compliqué, c'est pas parce que c'est inattendu qu'il faut pas le faire. Mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est de rappeler aux uns et aux autres que c'est, les conditions de la communication et de l'intercompréhension sont extrêmement rarement réunies. Et que là, compte tenu du nombre d'universitaires d'une part, du fait qu'il y a un seul politique et qu'il y a des médias qui ne vont pas être dans leur rôle traditionnel qui est de poser des questions et de les critiquer, ça va faire des conditions de communication relativement originales, pour ne pas dire difficiles. Et puis il y aura toutes les rivalités, les ambiguïtés entre ceux qui veulent être aimables avec le pouvoir politique et ceux qui veulent au contraire ne pas être aimables. Parce que tout ça, nous ne sommes pas des êtres purs les uns les autres, vous voyez ce que je veux dire? Et moi j'ai envie de dire, écoutez, c'est plus compliqué que ça pour que ça marche. Voilà. Mais par contre, ça vaut le coup de faire le pari. Mais il faudra avoir l'honnêteté d'en faire une évaluation. Voilà. Pas seulement sur les contenus, mais sur la logique de la procédure.
Alors rendez-vous à 18h15 sur l'antenne de France Culture pour ce débat en présence de 65 intellectuels. C'est à 18h15 et ce sera animé par Guillaume Erner. Le projet de loi santé arrive devant l'Assemblée nationale. 23 articles dont on connaît les grandes lignes avec la lutte contre les déserts médicaux comme point focal. Le gouvernement veut supprimer le numerus clausus pour les études de médecine. Il veut aussi créer des hôpitaux de proximité. Tout un volet de la loi est par ailleurs consacré au numérique pour encadrer notamment la télémédecine. En plein développement ces dernières années. Les précisions de Tara Schlegel tout à l'heure dans notre édition de 7h30. À l'étranger, le gouvernement néo-zélandais vient d'annoncer cette nuit par la voix de sa première ministre un accord de principe en vue d'un durcissement des lois sur les armes. Le pays est toujours sous le choc après la tuerie qui a fait 50 morts dans deux mosquées de Christchurch vendredi. Tout à l'heure, un jeune homme de 18 ans a été inculpé par un tribunal de Christchurch pour avoir relayé la vidéo diffusée en direct par l'auteur du carnage. Il avait également mis en ligne une photographie de la mosquée à Al-Nour avec la mention « cible atteinte ». Il risque deux fois 14 années de détention. Aux États-Unis, le déplacement jusqu'à mercredi du président brésilien Jair Bolsonaro, qui rêvait de rencontrer son homologue Donald Trump, ce sera chose faite demain. Les deux hommes feront une déclaration commune à la presse pour évoquer la cohérence idéologique de leur entente et la situation au Venezuela, sur laquelle leurs avis sont un peu plus divergents. À New York, Loïc Loury.
Une ligne dure contre Nicolas Maduro, mais pas d'intervention militaire. Voilà a priori la position de Jair Bolsonaro. Le Brésil, en effet, a déjà exclu l'option armée à l'inverse des États-Unis. Pour Donald Trump, la venue de cet allié n'en est pas moins une opportunité, celle de s'afficher avec le plus puissant et plus vaste pays d'Amérique latine, celle de pousser également Bolsonaro à se montrer plus ferme publiquement. Depuis janvier, Donald Trump a trouvé en Nicolas Maduro un ennemi à abattre. Le président américain a été le premier à soutenir son opposant Juan Guaido, entraînant dans son sillon des dizaines de pays. Faute d'être parvenu à précipiter la chute du président vénézuélien, Washington, depuis, accroît la pression. Il y a ces allusions fréquentes à l'option militaire, mais aussi des sanctions, révocation de visa, évacuation du personnel diplomatique, et ce n'est peut-être qu'un début. Washington et Caracas, depuis 20 ans déjà, entretiennent des relations très compliquées. Donald Trump, c'est une certitude, ne sera pas la voie de l'apaisement.
Loïc Loury. Le beau-frère de Ben Ali, l'ancien dictateur tunisien, a été arrêté jeudi dernier dans le sud de la France. On l'a appris hier. Belassem Trabelsi est impliqué dans de nombreuses affaires de corruption et est visé par 43 mandats d'amnés internationaux. La Tunisie n'a pas tardé à demander son extradition. En Algérie, toujours cet incroyable silence du gouvernement. Trois jours après les manifestations massives à travers tout le pays pour demander un changement de régime et s'opposer au prolongement du mandat d'Abdelaziz Bouteflika, toujours rien, pas la moindre expression publique, conférence de presse, publication de communiqués de la part du gouvernement, ce qui indigne prodigieusement les manifestants que Waïba Filali a rencontrés hier dans les rues d'Alger.
Dans un café de la ville d'Alger, en terrasse, Imène, chef d'entreprise algéroise, déplie son journal et tente d'y trouver les dernières réactions du gouvernement.
On essaye de choper un peu les dernières infos pour être à jour, quoi. Il n'y a rien de concret, hein. On attend. Hein.
Cette maman essaye de trouver une dernière fois des informations sur son portable et sur les réseaux sociaux.
Il n'y a rien. C'est du déni. On se dit, ils comprennent pas, ils n'entendent pas ou ils ne veulent pas comprendre. Quelle langue devrons-nous parler pour pouvoir avoir une réponse à nos revendications?
Dans les locaux de la Ligue algérienne des droits de l'homme, le secrétaire général Abdelmoumen Khalil scrute lui aussi les réactions sur les réseaux sociaux, les quotidiens El Watan et Liberté devant lui.
Je pense qu'ils sont dos au mur, parce qu'on ne peut pas faire la sourde oreille à un mouvement aussi populaire, aussi spectaculaire, qui touche toutes les régions d'Algérie et toutes les catégories sociales. Ils ne peuvent pas ne pas réagir, d'autant plus que même les soutiens de ce système doivent aussi être embarrassés face à cette démonstration de refus de la population algérienne.
Plusieurs appels à la mobilisation circulent d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Appel à la mobilisation pour mardi pour les étudiants et le vendredi pour tous les Algériens.
On reviendra justement sur ce cas algérien dans un instant avec Kader Abderrahim.
Avant cela, la météo pour refermer ce journal. Température en baisse et du vent de manière générale en France aujourd'hui. De la neige tombera également sur les reliefs des 600 à 800 mètres d'altitude. Température maximale à attendre aujourd'hui 8 degrés sur le nord, de 14 à 18 dans le